Gloire à Dieu. Il est bon de le louer. Nous ne louons pas le Seigneur pour accomplir un rituel. C'est vraiment de nos cœurs que nous voulons lui exprimer notre reconnaissance. Et c'est vrai que le chant, c'est, on pourrait ne pas chanter, on en parlait avant, hein, mais le chant, c'est extraordinaire parce qu'on dit tous la même chose en même temps. Si on essayait de le faire sans chanter, ce serait plus compliqué. Et c'est une grâce. Et la musique, hein, comme je le dis toujours, la musique... Les cordes vocales, ça a été créé pour louer Dieu. Ça sert à plein d'autres choses, malheureusement, aujourd'hui, mais à la base, c'est pour louer Dieu. On va faire un petit rappel de ce qu'on avait vu il y a 15 jours. On avait parlé de quoi, vous vous rappelez ? Attends. Un risque qui guette l'Église. Ouais, c'est bien de faire des rappels, parce que je m'aperçois qu'on prêche, mais... Ça laisse pas de traces. Hein ? L'habitude, la routine. Exactement, c'est bien. Il y en a qui ont de la mémoire. Oui, un des pièges de la pratique religieuse, hein, c'est la routine. Que ce soit au titre personnel, à titre personnel, que ce soit l'Église. On peut tomber dans une routine. Or, ce n'est pas à cela que nous sommes appelés. Nous sommes appelés à la vie. Hein, la vie, c'est quelque chose qui est constamment en mouvement. Donc, on avait parlé de ce qui est à l'origine de la vie. On avait vu trois points. D'abord, qu'il y a eu un souffle, l'Esprit de Dieu à l'origine. Il était là, il se mouvait au-dessus des eaux et il a permis la création. Et puis ensuite, quand Dieu a créé l'homme, une fois que tout était prêt, il dit « il manque quelque chose, il manque la vie ». Et il a soufflé sur lui, il a donné son esprit à l'homme. Et puis ensuite, on a vu que dans toute la Bible, il y a un nouveau souffle qui est annoncé. Quelque chose qui va arriver, qui est un souffle nouveau pour la création. Donc on a vu tous les textes dans les prophéties qui annoncent cela. Et puis ensuite, on a vu que ce souffle créateur est arrivé à la Pentecôte. Et il a permis la création de l'Église, ce que nous sommes aujourd'hui. L'Église, ce n'est pas un bâtiment. Ce n'est pas simplement nous qui sommes réunis ce matin. C'est beaucoup plus grand que ça. L'Église réunit tous les enfants de Dieu sur terre. C'est des millions, voire peut-être des milliards de personnes. Et c'est extraordinaire de faire partie de tout cela. Aujourd'hui, on va voir que le souffle, l'esprit, il est toujours associé à la parole. L'esprit seul, la parole seule, ça conduit à des déséquilibres. Mais quand les deux sont conjugués, alors il y a une sorte de stabilité, de pérennité. Et puis nous sommes réellement, quand il y a l'esprit et la parole, comblés par son amour. Paul associe les deux. Dans l'épître aux Éphésiens, vous connaissez ce texte sur les armes hein, du chrétien. Il est dit, prenez l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. C'est Éphésiens 6, 17. Permettez-moi de préciser et compléter aussi ce que l'on dit en ce moment, ce qu'on a dit il y a 15 jours. L'esprit et la parole, ce sont des moyens qui sont utilisés par Dieu pour nous donner la vie. Mais j'aimerais vous dire ce qui nous donne la vie, ce qui permet que nous ayons la vie, en premier lieu, c'est l'amour de Dieu. La création, c'est le résultat de l'amour de Dieu. Toi, tu es le résultat de l'amour de Dieu. On dit que on est le résultat de l'amour de nos parents, mais bien au-delà, nous sommes le résultat de l'amour de Dieu. Ce qui nous donne la vie à la base, c'est l'amour de Dieu, bien plus, je dirais, et c'est le titre de ma prédication, que j'aurais pu appeler « L'origine de la vie 2 », mais le Saint-Esprit m'a conduit à donner ce titre, « L'amour surdimensionné de Dieu ». On va donner quelques textes en introduction, un petit temps d'introduction avec trois textes qu'on va simplement lire. D'abord dans Éphésiens chapitre 3, versets 16 à 19, Paul est sur un discours qu'il adresse à l'église d'Éphèse et à un moment donné il dit ceci, « Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. » Donc il y a là une révélation de ce que nous sommes appelés à vivre en tant que chrétiens dans la nouvelle alliance, c'est que Christ peut habiter en nous par son esprit. Amen. Et ce qui est produit en nous par la présence de Christ, c'est l'amour. Il continue en disant, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Vous voyez comment est qualifié l'amour de Dieu ici ? Déjà, il est parlé de largeur, longueur, profondeur, hauteur. Et puis, il est parlé d'un amour qui surpasse toute connaissance. C'est-à-dire que même moi qui suis pasteur, qui connais Dieu depuis maintenant plus de 40 ans, 45 ans, même je l'ai connu tout petit, mais que je lui ai donné ma vie depuis plus de 40 ans maintenant, et je ne comprends toujours pas la dimension de son amour. Ça me dépasse. Ça me dépasse. C'est quelque chose d'incroyable. Il est plus grand que l'amour d'une mère. Désolé les mamans. C'est votre fête aujourd'hui, je vous souhaite une bonne fête. Mais votre amour, à côté de celui de Dieu, il est tout petit. Et on a du mal à le comprendre. Hein. C'est vrai que quand on pense à l'amour d'une mère pour son enfant, on se dit, bah, il n'y a pas plus grand. Même les maris sont jaloux. Hein. Mais en fait, si, il y a plus grand. Il y a l'amour de Dieu. Dans Jean chapitre 3, verset 16, texte que les habitués connaissent, Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde. Ce n'est pas juste Dieu a aimé. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Ce n'est pas juste des paroles. Je vous aime. Mais il donne son Fils unique, ce qu'il a de plus cher. Il le donne afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous voyez, on parle de l'origine de la vie. Elle est ici. Dans la vie éternelle qui nous a été donnée. Vie éternelle qui commence, qui a déjà commencé, hein. Souvent, les gens ils me disent « Ah, oh, ça va être bien quand on sera au ciel. » Quand on leur dit la vie éternelle, ils pensent au paradis. Non, non, la vie éternelle, ça, l'éternité, ça n'a pas de début, ça n'a pas de fin, donc on y est. Hein. Et c'est dès aujourd'hui qu'on est appelé à vivre des choses extraordinaires. Je parlais avec quelqu'un cette semaine et il disait « Cette vie ne vaut pas le coup d'être vécue. Le monde est méchant, le monde est mauvais. » Pourtant, c'était un chrétien, je me disais « Mince !» Oui, c'est vrai, il a raison. Le monde ne donne pas trop envie d'y habiter et d'y être. Mais nous avons l'amour de Dieu en nous. Et nous avons l'amour des gens. Et donc nous sommes heureux d'être sur cette terre. Même si les choses sont difficiles, on veut apprendre à aimer la vie que Dieu nous donne et à aimer notre prochain. Dans Jean chapitre 10, c'est le dernier texte d'introduction, Jésus dit « Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie. » Amen. Et pas qu'elle ait une petite vie médiocre, mais qu'elle soit dans l'abondance. Attention, l'abondance, c'est pas les pépettes. Hein. Une abondance de l'être intérieur. Quelque chose de fort qu'on vit. Vous savez, des gens sont très riches et sont les plus malheureux du monde. Et des gens sont très pauvres et sont heureux. Je suis toujours impressionné des reportages dans des pays, dans des endroits reculés de la terre, où vous voyez des gens qui n'ont rien. Et ils ont le sourire jusqu'aux oreilles. Nous qui avons tout, regardez la tête des gens quand vous promenez dans la rue. Et je parle pour moi aussi. Hein. Je suis toujours admiratif de ça. Hein. Je me souviens, on a une amie qui est allée à Madagascar. Pendant un mois, elle avait amené ses élèves d'ailleurs, c'est une prof de PS, elle est à la retraite maintenant, et elle nous avait montré un reportage, mais vous voyez ces des orphelins, des enfants qui n'ont rien, vous les voyez sur les photos, ils sont, vous voyez que les dents en fait, tellement ils sont souriants. C'est ce que Dieu veut nous donner, une vie en abondance. Le premier point de cette prédication, j'aimerais m'attacher sur ce qui a été annoncé. Et là, comme je ne veux pas vous retenir trop longtemps, je vais juste m'arrêter sur un texte, mais il est dans la continuité de ce qu'on a vu la dernière fois. Il se trouve dans le prophète Ézéchiel. Pour information, Ézéchiel a vécu au 6e siècle avant Jésus-Christ. Donc il parle de choses qui vont arriver 600 ans plus tard. C'est aussi une démonstration de ce que la Bible est un livre vivant, un livre réel et qui donne la vérité. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits où vous pouvez constater que des hommes ont écrit des choses des siècles à l'avance et que ces choses se réalisent. Regardez ce qu'il est dit. Le texte est un peu long, mais j'aimerais vraiment que vous voyez ce récit. Il est tellement extraordinaire. C'est Ézéchiel qui parle. « La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. » Essayez de vous projeter. C'est pas génial comme image, hein. Des ossements humains. « Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Ils étaient complètement secs. Il me dit, « Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre ?» Je répondis, « Seigneur éternel, tu le sais. » Il me dit, « Prophétise sur ces eaux et dis-leur, « Ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ces eaux. Voici, je vais entrer en vous, faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs et je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Amen. » Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardais et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, « Prophétise et parle à l'esprit, prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, esprit vient des quatre vents, souffle sur ses morts, et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux, et ils reprirent vie, ils se tinrent sur leurs pieds, c'était une armée nombreuse, très nombreuse. Amen. » Extraordinaire, hein, ce texte. De quoi parle-t-on ici? Nous parlons de choses qui vont se passer et que Dieu a prévues pour son peuple. Il faut savoir que le prophète Ézéchiel parle d'Israël à un moment donné où Israël est au plus bas. Spirituellement, ils ont laissé Dieu de côté. Ils ont vécu la déportation, donc l'humiliation, l'esclavage, toutes ces choses. Ils sont vraiment dans un état, c'est pour ça qu'on parle d'ossements desséchés. Le premier constat que je fais sur ce texte, c'est qu'ils étaient fort nombreux. Sur la surface de la terre, nombreux sont ceux qui sont dans cet état de dessèchement, dans la souffrance, dans la difficulté, parfois dans les traumatismes, des choses subies, parfois dans l'injustice, toutes ces choses qui vivent et qui font que petit à petit, on est détruit de l'intérieur, on se dessèche. Oui, ils sont fort nombreux, les gens dans cet état autour de nous. Il y a un défi, deuxième chose que je remarque dans ce texte, là où tout est mort et tout est sec, est-ce qu'il peut y avoir de nouveau la vie? J'aime bien comment Dieu s'y prend avec Ézéchiel. Il dit alors, qu'est-ce que t'en penses? Ézéchiel, il se mouille pas. Il dit, tu le sais. Mais il a raison, hein. Il a raison, c'est Dieu qui sait toutes choses. Dieu sait toutes choses. Et puis on retrouve ici les deux moyens utilisés lors de la création. La parole et l'esprit. Dans le verset 10, on le reprend. Je prophétisais, donc la parole, selon l'ordre qu'il m'avait donné. Ézéchiel parle. De la part de Dieu, on voit qu'à chaque fois, vous l'avez remarqué, c'est Dieu qui lui dit ce qu'il doit dire, et lui le répète. Et puis on voit l'esprit qui entre en eux, et le résultat, c'est qu'ils reprennent vie. Amen. On a besoin de la parole, et on a besoin de l'esprit. Amen. Tout comme à la création, c'est l'esprit et la parole, l'esprit qui se mouvait au-dessus des eaux, qui était là présent, et Dieu qui crée à partir de la parole. Dieu dit, et... que la lumière soit et la lumière fut. Ça, c'est quelque chose qui nous dépasse. Hein. Je ne suis pas capable de dire Allez, sois un arbre. Et pof, il y a un arbre qui se met là. Mais Dieu le fait. Dieu crée à partir de rien. Dans le texte d'Ézéchiel, ce qui donne la vie, clairement, la parole de Dieu, qui est donnée par qui ? Elle est donnée par qui ? Par Dieu lui-même ? Allô, vous êtes là ? Qui donne la parole ? C'est pire qu'à l'école, vous avez peur de quoi ? De prendre une baffe, d'avoir 2 heures de colle ? Qui parle ? C'est Dieu qui donne la parole, mais qui parle aux eaux ? C'est Ézéchiel, s'il vous plaît. Soyons précis, c'est Ézéchiel. Et moi, ça m'encourage, parce que devant les gens qui sont dans la souffrance, dans la sécheresse, Dieu m'envoie pour leur parler. Alors attention, vous avez raison quand vous dites c'est Dieu qui parle aussi. Parce que je ne fais que dire ce que Dieu me dit de dire. Parce qu'on peut aller devant les gens qui souffrent et dire des grosses bêtises, hein. Tout bon chrétien qu'on est, on leur balance des versets bibliques et machin, et on se dit bon, c'est la parole de Dieu, donc ça peut pas faire de mal. Ouais, tu parles. Si c'est pas donné à bon escient, ça peut faire du mal. C'est l'apôtre Paul qui dit la lettre tue. Hein. Attention, c'est pas parce qu'on dit la parole de Dieu que forcément on dit quelque chose de bien. C'est si on dit la parole de Dieu au moment où il nous dit de la dire et comme il nous dit de la dire. C'est pas tout à fait la même chose. Lors de la création et lors de cette reconstruction qu'on voit dans la vallée des ossements desséchés, c'est à chaque fois l'amour de Dieu qui s'exprime. À la création, Dieu veut créer un être pour l'aimer, pour avoir une relation avec lui, et puis qui se multiplie et avoir une relation infinie avec des hommes par milliers, par milliards aujourd'hui. Et puis ici, dans le texte d'Ézéchiel, il est parlé du peuple d'Israël. Que Dieu veut restaurer. Que Dieu veut restaurer. Et il est parlé de rassembler les eaux. Là, il y a une double prophétie ici. Hein. Il y a la résurrection que Christ veut nous accorder, mais il y a aussi la restauration du peuple d'Israël. Et cette prophétie, ces deux prophéties se sont accomplies. L'an zéro, Jésus vient. Sur terre, bon, on sait que ce n'est pas exactement l'an zéro, mais peu importe. Jésus vient sur terre, c'est accompli, ça s'est passé. Et puis le rétablissement de l'État d'Israël, ça s'est passé en 1948. Donc on a de la chance quand même. On voit une prophétie qui a des milliers d'années se réaliser sous nos yeux. Quand Jésus est venu sur terre, je n'étais pas là pour le voir s'accomplir. Mais en 1948, je n'étais pas là, c'est vrai, mais je vois le peuple d'Israël aujourd'hui. Alors l'actualité, malheureusement, je ne vais pas parler de l'actualité. On n'est pas obligé de... Parce qu'il y a un regard spécial de Dieu sur Israël, d'être d'accord avec tout, hein, ce qui se fait. Parce que là, actuellement, ce n'est pas Dieu qui dirige l'État d'Israël, c'est un homme, hein, et qui est... Voilà, dont on pourrait dire beaucoup de choses. Ben, je ferme la parenthèse. Dans le prophète Ésaïe, Dieu montre son amour à son peuple. On aurait pu citer le prophète Ésaïe, hein, pour parler de la vie qui va être donnée, Ésaïe 53. Nous avons dans Ésaïe 53, Ésaïe c'est encore plus vieux. C'est 7 siècles avant Jésus-Christ. Dans Ésaïe 53, il décrit avec précision ce qui va se passer à la croix. Mais au chapitre 43, il dit ceci, il parle à son peuple, Dieu parle à son peuple, il lui dit « Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. » Waouh, quelle déclaration de Dieu. « Tu as du prix à mes yeux, je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Ne crains rien car je suis avec toi. » Et là, à nouveau la prophétie, je ramènerai de l'Orient ta race, je te rassemblerai de l'Occident. De l'Orient, de l'Occident, de partout, Dieu a rassemblé tout le peuple d'Israël sur la terre promise. Ce qui était inconcevable, hein. Même les gens qui ont vécu en 1947 ne pouvaient pas se douter une seconde qu'un an plus tard, il y aurait la proclamation de l'État d'Israël. Dans cette description de la vallée des ossements, il y a trois dimensions, les trois dimensions de l'être qui sont retrouvées. Je le signale au passage parce que ça va nous amener à la deuxième partie. Le corps, les os qui sont dispersés et qui sont regroupés pour reformer un squelette. Il y a l'âme, au travers des nerfs, j'aime bien l'image, la crise de nerfs, vous connaissez. La chair, c'est tous les sentiments, tout ce qu'il y a à l'intérieur de nous, hein. Notre nature, notre vieille nature. Et puis l'esprit, ce qui nous sert à être en communion avec Dieu. Et malheureusement, l'esprit de beaucoup de gens est mort. Ils ne voient que deux dimensions, corporelles et psychologiques. J'ai pu parler avec des psychiatres, j'ai essayé de rentrer en contact avec certains psychiatres parce qu'on avait dans l'église des gens qui fréquentaient l'église, qui avaient des problèmes psychiatriques, et je voulais essayer de savoir comment on pouvait travailler ensemble. Ah non. Non, 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 non. Alors je sais qu'ils sont soumis, moi je ne demandais pas ce qui viole le secret médical, mais qu'ils me donnent des billes. Et que je puisse aussi leur parler de ce que vit la personne, parce que voilà, quand il y a des délires mystiques, etc., il ne faut pas que le psychiatre associe ce que dit la personne à ce qu'on vit, nous, dans l'Église. Mais on ne peut pas établir le dialogue parce que la plupart des gens, pas tous, hein, pensent que ça s'arrête à deux dimensions et ils n'observent pas la dimension spirituelle. Ce texte, en fait, il annonce la venue de Jésus, le texte d'Ézéchiel. Parce que Jésus est celui qui vient dans la parole et dans l'esprit. Regardez les deux textes, on termine cette première partie, on va aller sur la deuxième. Jean 1,14, la parole a été faite chair et elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jésus est appelé la parole. Il est la parole. Et puis dans Matthieu 3,11, Jean-Baptiste dit, moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Amen. Jésus, c'est la parole et l'Esprit. Amen. Et c'est lui qui vient, qui est envoyé par son Père pour nous redonner la vie. Et on arrive à la deuxième partie, ce qui a été accompli. Nous sommes plus, là aussi, nous avons un privilège. Il y a tous ces gens qui ont vécu avant la venue de Jésus et qui étaient esclaves de leur péché, qui étaient obligés de faire des sacrifices pour obtenir le pardon. C'était une vie terrible. On ne pouvait pas rentrer dans la présence de Dieu, dans le temple, si on n'avait pas rempli certaines conditions. Ceux qui étaient handicapés ne pouvaient pas, les enfants ne pouvaient pas. Enfin, c'était toute une histoire. Et la venue de Jésus donne la possibilité de la vie à tous. C'est encore l'amour de Dieu qui est à la base de tout cela. On l'a vu en lisant Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. Amen. Et j'aimerais voir juste quelques exemples de la manifestation de l'amour de Jésus. Dans Matthieu 9,36, voyant la foule, il fut ému de compassion. Moi, ce terme ému de compassion, il me touche au plus profond de moi. Je dis à Dieu, je veux avoir ce même sentiment que Jésus. Jésus, en voyant une foule, ici il est dit, ému de compassion pour elle parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Jésus, il a une capacité qu'on n'a pas, c'est qu'il voit les cœurs. Mais en même temps, je me dis, heureusement qu'on n'a pas sa capacité. Parce que si on pouvait sonder la souffrance des gens qu'on a en face de nous, je pense qu'on tomberait d'équerre. Mais Jésus le voit, et lui, ce qui se manifeste, c'est son amour, sa compassion. Amen. Que Dieu nous donne cette compassion. Jésus, il veut redonner la vie. La remarque qui est faite ici, c'est des brebis qui n'ont pas de berger. C'est tout simplement des gens qui vivent sans Jésus. Vivre sans Jésus, à notre époque, c'est tellement difficile. C'est tellement difficile, la vie est tellement difficile aujourd'hui. Et souvent on le dit entre nous, quelle chance on a d'avoir Jésus, qui est là pour nous accompagner. Nous ne sommes pas des gens hors sol, qui n'avons pas de problème. On a les mêmes problèmes que tout le monde, même si on est chrétien. Mais face aux difficultés, nous avons un atout irremplaçable, Jésus et son amour surdimensionné. Amen. Ici encore, il y a une foule nombreuse, vous remarquez, et un constat de mort, de dessèchement sur le plan spirituel, une foule languissante, abattue. Même constat que dans la vallée des ossements, mais le berger est venu pour leur donner la vie. Amen. Dans Marc 6, 34, autre épisode où il est dit, quand Jésus sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour eux, encore, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. Et qu'est-ce qu'il fait devant des brebis qui n'ont point de berger? Eh bien, qu'est-ce qui donne la vie? La parole. Il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Jésus, comment il prend soin des foules en leur prêchant la parole. La prédication de la parole sous l'onction du Saint-Esprit, les deux conjugués. Puisque les foules, je vous le rappelle si vous lisez les évangiles, les gens étaient frappés par l'autorité de Jésus lorsqu'il parlait. Ils disaient, cet homme quand il parle, il y a quelque chose. Parce qu'il y avait l'onction du Saint-Esprit en plus de la parole. Matthieu 14, 14. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle. À nouveau, Jésus est ému de compassion. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il guérit. Il guérit les malades. Les malades physiques, mais les malades psychologiques aussi. Son amour le pousse à guérir. Et Jésus, j'aimerais vous le dire, guérit encore aujourd'hui. L'amour de Dieu se manifeste par les guérisons qu'il accorde. Et puis le dernier texte avant d'arriver à la conclusion. L'Esprit du Seigneur est sur moi. On a parlé de textes de l'Ancien Testament qui prophétisent la venue de Jésus. À nouveau, ce texte ici fait référence à Ésaïe. C'est le chapitre 61. Et Jésus qui entre dans la synagogue de Nazareth ouvre les rouleaux et il lit ce texte d'Ésaïe. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Amen. Pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. On retrouve les dimensions de l'être. La guérison du corps, guérir ceux qui ont le cœur brisé. La guérison de l'âme, cœur brisé, c'est l'âme. Proclamer aux captifs la délivrance. Tous ces chaînes, ces liens qu'ils peuvent avoir, les addictions, toutes ces choses qui sont là, qui nous tiennent esclaves, même des bonnes choses. Les loisirs peuvent nous rendre esclaves. Le travail peut nous rendre esclaves. La famille peut nous rendre esclaves. Mais Dieu nous appelle à être libres. Et puis, la dimension spirituelle, aux aveugles, le recouvrement de la vue. Ce n'est pas les aveugles physiques, c'est les aveugles spirituels, ceux qui ne voient pas l'amour de Dieu. Jésus veut leur ouvrir les yeux. Amen. Il veut nous renvoyer libres. Alléluia, gloire à Dieu. Son amour le pousse à prendre soin de nous sur toutes les dimensions de notre être. Un peu plus loin, conclusion, un peu plus loin dans le même... Une fois qu'il a lu ce rouleau dans la synagogue de Nazareth, tout le monde le regarde et attend qu'il parle. Et il va dire ceci. Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Amen. Amen. Nous ne sommes plus dans l'attente que Jésus fasse quelque chose pour nous. Il a déjà tout accompli. Tu as juste à rentrer dans les promesses. Si ton cœur souffre, alors confie-le à Jésus pour qu'il le guérisse. Si ton corps est malade, confie-le à Jésus pour qu'il le guérisse. Si tu, sur le plan de la foi, tu te sens comme complètement, j'allais dire handicapé, excusez-moi l'expression, mais incapable d'avoir la foi, confie cela à Jésus. Il répond dans toutes les dimensions de l'être. Il a tout accompli. Il y avait ce qui a été annoncé par les prophètes, on l'a vu avec Ézéchiel, on l'a vu avec Ésaïe. Il y a désormais ce qui a été accompli par Jésus-Christ. Amen. Et dont nous bénéficions aujourd'hui. Alléluia. La reconstruction de l'être dans toutes ses dimensions. Dieu peut redonner la vie à ton corps malade. Dieu peut redonner la vie à ton âme malade. Dieu peut redonner la vie à ton esprit qui est languissant parce qu'il est sans berger. Amen. On va prier ensemble. Vous êtes d'accord, compris ?